Pour ceux qui étaient là la semaine passée, on a parlé d'un message très important qui nous parle justement d'un état qu'il faut être en tant que chrétien si on veut être parmi les premiers dans le ciel. Parce qu'il va y avoir des grands et des petits après la résurrection. Il va y avoir des gens qui vont être les premiers places, puis il y en a d'autres qui vont être assis en arrière-place. Puis ça n'a pas rapport à notre prospérité financière, ça n'a pas rapport à notre statut social, ça n'a pas rapport à notre race, ça n'a pas rapport à nos avoirs. Ça a rapport simplement, puis c'est Dieu qui a donné la révélation, quelle attitude qu'on a intérieurement. Est-ce qu'on marche d'une manière humble ou on marche avec orgueil devant les hommes? Puis j'ai expliqué toutes sortes d'affaires. Puis ceux qui ont manqué ce message-là, allez sur Facebook puis écoutez le message la semaine passée. C'est vraiment important. Si vous voulez avoir une belle place l'autre bord, ce que je vous ai dit là, j'ai dit le secret qui est révélé dans la parole pour pouvoir avoir les premières places. Aujourd'hui, on continue la suite de cela parce que j'ai parlé de marcher humblement devant les hommes. Mais le passage qu'on est en train d'étudier, on est toujours dans le thème « Le chrétien et ses responsabilités ». On est basé sur une parole du prophète Michée dans l'Ancien Testament, puis on va voir que Dieu a toujours voulu que ceux qui le représentent doivent chercher à marcher humblement avec Dieu. Aujourd'hui, c'est de voir qu'on a à marcher humblement avec Dieu. C'est différent que d'être marché humblement avec les humains. Parce que marcher humblement avec les humains, on se compare aux humains, puis là, des fois, on se pense meilleur, des fois, on se pense moins bon, puis s'amener en regardant les autres à être humble, c'est un combat pour ceux qui ont un cœur facilement, qui s'élèvent facilement. Mais avec Dieu aussi, c'est une autre évaluation, c'est un autre rapport qu'on a avec lui, puis de marcher humblement avec Dieu, c'est pas encore automatique. Quand tu te convertis au Seigneur, il faut que tu apprennes à marcher humblement avec Dieu. Dans Michée 6:8, ça nous dit, le passage sur lequel on base notre étude, c'est « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, puis ce que l'Éternel demande de toi. » Ça, il faut se sentir concerné. Il nous demande ça de nous. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Comme je vous disais, on a vu que de marcher dans l'humilité, ça se voit avec notre rapport avec les autres. Mais l'humilité se voit aussi dans notre attitude face à Dieu. Comment est-ce que je pense quand je m'adresse à Dieu? Ou bien tout simplement quand je vis ma vie de tous les jours. Comment est-ce que je pense quand je sais que Dieu est là, puis Dieu regarde tout ce que je fais? Il y a quelque chose là dans le contact, là, dans la relation qu'on a avec lui, qu'on a à apprendre, c'est d'être humble devant lui. L'humilité devant Dieu, ça peut être au niveau de nos paroles. Puis ça, c'est là qu'on le remarque le plus, là, comment ce qu'une personne dit, ce qu'une personne confesse, ce qu'une personne prononce comme parole, puis ça démontre s'il est humble face à Dieu. Ce qu'on prononce, ça peut venir de l'orgueil de l'humain. Il faut prendre garde à ne pas être orgueilleux dans nos pensées et dans nos paroles. Parce que Jacques nous a avertis dans Jacques 3:5. De même, la langue, c'est un petit membre, puis elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Jacques, quand il nous a dit ça, il a expliqué le contexte en disant que notre langue est animée par le feu de la Géhenne. Est animé par l'enfer, ce qu'on appelle l'enfer, ou le lac de feu, ou l'étang de feu, ce que la Bible appelle le lieu de perdition. Notre langue, c'est un petit membre, puis ça se vante de grandes choses. Puis ça peut faire qu'à cause de notre langue, on est orgueilleux face aux humains, puis on est orgueilleux face à Dieu. On va regarder quelques versets qu'on voit dans des saintes Écritures on va voir dans ces versets-là des gens qui étaient en train de parler à Dieu. On va voir quelle était leur attitude face à Dieu. Dans Luc chapitre 18, le verset 11, il y a quelqu'un qui est en train de parler à Dieu, puis vous regarderez voir s'il y a une attitude humble dans sa parole. Ça dit, le pharisien debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis pas comme les autres, comme les restes des hommes. Ils sont ravisseurs, sont injustes, sont adultères, ou même comme ce publicain. » Puis là, il explique, « Je jeûne deux fois par semaine, je fais ci, je fais ça. » Quelle attitude que vous trouvez que ce personnage a devant Dieu? Il est en train de parler à Dieu, puis il se vante de ses performances. Il se vante de qu'est-ce qu'il a accompli dans le Seigneur. Pourtant, on sait que c'est pas par nos œuvres, puis on est tous des pécheurs, on est sauvés par grâce, c'est un cadeau que Dieu fait. Mais quand un chrétien se met à se vanter de ce qu'il est ou de ce qu'il a fait, puis en plus, il se compare aux autres, parce que là, dans sa prière, il se comparait à un autre qui est en train de prier. C'est là que je vous dis, des fois, notre langue peut dire des grandes choses, mais c'est des choses enflammées par la géhenne, qui sont le contraire de l'état où ce que Dieu veut qu'on soit dans notre cœur. Dans le même paragraphe, là, on voit les paroles de quelqu'un d'autre qui est en train de prier Dieu, dans Luc 18, au verset 13. Le publicain, lui, c'était un autre gars, que lui, un publicain, c'est quelqu'un qui travaillait à rembourser les taxes pour le gouvernement. Il ramassait les taxes pour les Romains. Puis c'est un juif. Il était haï parmi les autres juifs. Mais lui, dans sa job, il faisait pour gagner sa vie. Percepteur d'impôts. Bon, ben, ce gars-là, lui, il avait la foi en Dieu, il priait à Dieu. Puis lui, il dit, ce publicain-là, il se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » La Bible, elle nous le dit, c'est Jésus qui a expliqué ces deux personnages-là qui sont en train de prier. Jésus a expliqué ça comme une parabole pour nous faire comprendre que c'est important ce qu'on prononce de notre bouche. On est en train de se vanter ou on est en train de s'humilier? Lui, il dit, sois apaisé envers moi qui sois un pécheur. Il demandait pardon puis il s'avouait qu'il était un pécheur. Ça, c'est l'état que Dieu veut qu'on ait dans notre cœur. Même après 40, 50 ans de vie chrétienne, puis qu'on ait accompli bien des choses, Dieu veut pas qu'on se vante puis qu'on se compare aux autres avec ce qu'on a fait. Il veut qu'on s'humilie puis qu'on s'avoue qu'est-ce qu'on est. On est des pécheurs sauvés par grâce. Puis on a encore à implorer le pardon de Dieu, même après 50 ans de vie chrétienne. Jésus a dit que ce gars-là qui a imploré le pardon, lui est sorti du temple justifié, déclaré juste, pardonné par Dieu. Parce que sa prière était dans les conditions pour recevoir la grâce de Dieu. L'autre, non. Un autre passage qui nous parle de quelqu'un qui était humble devant Dieu, puis qui a parlé de façon humble devant Dieu. Dans Matthieu 8, 8, ça nous dit, « Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Qu'est-ce qu'on découvre dans cette phrase-là? On voit encore l'état d'humiliation que ce personnage-là ressentait. « Je ne suis pas digne. » Ça, c'est un état d'humilité devant Dieu. « Je ne suis pas digne que tu viennes. » Mais il a aussi fait des déclarations de foi. « T'as juste à dire un seul mot, puis ma fille va être guérie. » Puis Jésus a dit, il n'a pas trouvé une aussi grande foi sur la terre. Il était étonné de voir que c'était même pas un juif, là, c'était un soldat romain. Là. Puis il a imploré Jésus en se disant qu'il n'était pas digne, puis en demandant, en déclarant par la foi, « Jésus, t'as rien qu'un mot à dire, puis il est guéri. » Puis Jésus l'a fait. Il l'a guéri. Puis Jésus a déclaré à tout le monde, j'ai pas vu une aussi grande foi dans tout Israël. Ça nous démontre quel genre d'attitude qu'on doit avoir et quelle parole qu'on doit avoir quand on est en train de parler à Dieu. Puis ça, il faut développer ça parce que c'est pas naturel. La minute qu'on se sent fier de nos accomplissements, on se sent emporté. Ça nous élève, là. On se pense bon. Des fois, on se pense meilleur. Puis là, cette attitude-là, elle déplaît au Seigneur. Vous allez voir d'autres versets tantôt là-dessus. L'humilité devant Dieu peut être aussi un geste avec notre corps lorsque nous adressons à Dieu. On dit souvent le verset, si on en a parlé un peu il y a quelques semaines, y a-t-il quelqu'un qui peut accueillir la madame qui veut rentrer? Il y a un passage que l'apôtre a mentionné dans Philippiens, chapitre 2, le verset 9. C'est un passage qu'on connaît par cœur. C'est un passage qu'on a entendu souvent. Puis, regardez bien, c'est à propos de Jésus. Jésus, après sa mort, il est élevé dans les cieux comme étant le nom au-dessus de tout nom. Hein? Il est le personnage le plus important de toute la création. Même plus important que les anges, puis les anges puissants. Ça dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il a élevé Jésus, là, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, ce verset-là, on le répète souvent parce qu'on aime élever Jésus. Mais ce qu'on doit remarquer dans ce passage-là, ça dit qu'au nom de Jésus, ça veut dire quand le nom de Jésus est prononcé, tous les genoux devraient fléchir. La question qu'on se pose, c'est est-ce que les chrétiens se mettent encore à genoux? Quand je vous disais tantôt que l'humilité, c'est un état, c'est des paroles, mais c'est aussi des gestes. Se mettre à genoux, c'est un acte d'humilité. On reconnaît qu'il est Seigneur. On reconnaît sa souveraineté. Il y a du monde qui va voir le pape et se mettre à genoux devant le pape. Pas des farces. Puis le pape, c'est juste un homme. C'est pas Dieu. Jésus, c'est Dieu, le nom au-dessus de tout nom. C'est déclaré que dans son nom, quand on prononce son nom, tous les genoux vont fléchir. Puis les chrétiens se mettent encore à genoux pour s'humilier devant Dieu, pour prendre une position d'humilité. L'apôtre Paul, lui, priait à genoux. Dans Éphésiens 3, 14, quand il est en train d'expliquer des affaires, il dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Il est en train d'expliquer quelque chose, puis dans son sujet qui est important, qu'il est en train d'expliquer, il dit, « Moi, là, à cause de cela, je me mets à genoux, puis je prie. » C'est une attitude naturelle dans le temps des apôtres que les chrétiens se mettent à genoux pour prier Dieu. Les apôtres, là, on parlait de l'apôtre Paul, mais les apôtres aussi, là, en fait, on voit dans Luc 5, 8, ça nous parle de Pierre. Ça dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Ça, c'est un homme humilié, qui marche dans l'humilité. Il ne se pensa pas à l'égal de Jésus, puis de rester debout devant lui. Quand tu sais que l'autre est plus grand, c'est le plus grand, on devra commencer à développer, de se mettre plus souvent à genoux devant lui. C'est un signe d'humilité. Le titre du message que j'ai dit, que tu marches humblement avec ton Dieu. Fait que dans nos paroles, dans nos agissements, on doit développer ça. Paul, puis il y a plusieurs disciples aussi qui se sont mis à genoux sur le bord de l'eau pour prier. Dans Actes 21, verset 5, ça dit, « Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'au bord de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. » Ça veut dire toutes les familles qui étaient là, les chrétiens et leurs familles, les enfants, tout le monde qui était rassemblé sur le bord de l'eau pour dire un au revoir à l'apôtre Paul, ils voulaient s'adresser à Dieu, ils sont tous mis à genoux sur le rivage, puis ils se sont mis à prier. Ça démontre encore l'état d'humilité que peu importe où ce que tu es, tu peux avoir des moments qu'il faut que tu te mettes à genoux pour être prier Dieu. Même Jésus, lui-ci, se mettait à genoux pour prier son Père. Imaginez, là, on prie Dieu, notre Père qui est dans les cieux, on prie Dieu le Père, le même Dieu que Jésus priait. Puis Jésus est élevé au nom, dans le nom au-dessus de tout nom, afin que tous les genoux fléchissent devant Jésus. Mais Dieu le Père, lui, Jésus se priait aussi en se fléchissant les genoux devant son Père. On voit ça dans Luc 22, 41. Ça parle de Jésus, là. « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. » Si le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, s'est mis à genoux pour prier son Père, est-ce que les chrétiens devraient aussi, du moins de temps en temps, ou peut-être plus souvent, commencer à se mettre à genoux devant Dieu? C'est un signe d'humilité que tu marches humblement devant ton Dieu. L'humilité devant Dieu peut être aussi dans notre attitude, dans notre marche avec Dieu. Il faut marcher humblement. Ça sous-entend, je marche humblement avec Dieu, là. Ça sous-entend que je devrais marcher humblement en incluant Dieu dans ma marche, dans mes projets, dans mes besoins. Parce que tu peux marcher dans ta vie chrétienne sans jamais faire te dire ou de dire ou de confesser. Là, je lui ai mis ma confiance dans le Seigneur. J'ai remis ça entre les mains du Seigneur. Fait que, on veut marcher humblement devant le Seigneur, mais des fois, on s'adresse même plus au Seigneur pour demander quelque chose quand on est en train de vivre des choses. Des fois, des choses qu'on veut faire, puis on ne demande pas l'aide du Seigneur. Donc, on pense qu'on est capable d'arranger nos affaires tout seul. C'est plus de marcher humblement avec Dieu, c'est de marcher comme quasiment sans Dieu. On marche dans nos pensées, dans nos volontés, puis on fait ça avec nos moyens, puis on fait ça à notre manière, puis on ne demande rien à Dieu. C'est une autre affaire qui peut nuire, qui démontre qu'on marche pas humblement avec Dieu. Il faut marcher humblement en incluant Dieu dans nos affaires. Regardez comment Jacques explique ça, lui, ce point-là, dans Jacques 4, 13. Il dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Ça, c'est faire des projets par soi-même. Tu peux être chrétien puis faire des projets par tes moyens. Je vais faire ci, je vais faire ça, on va aller là, puis on va faire ça, puis on n'a même pas parlé à Dieu une seule fois de qu'est-ce qu'il était à nos projets. C'est là, il continue, Jacques, en disant, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, parce que là, on fait des beaux projets, on a des voyages à faire, ou des plans pour des missions ou des choses, des missions même pour l'œuvre de Dieu, ou du travail qu'on a à faire, même à notre travail, on n'inclut pas Dieu dans nos affaires. On recommande pas notre sort à l'Éternel. On ne met pas en lui sa confiance, notre confiance pour qu'il puisse nous aider. On fait tout par nos propres forces, par nos propres capacités. On se fie plus à nos bras et à notre cerveau que se fier à Dieu. C'est comme si on marche sans Dieu. C'est comme si on marche dans l'orgueil, qu'on se pense correct tout seul. Il dit, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne peux pas dire, je m'en vais là, je vais passer un an. Il donne le secret de ce qu'on devrait dire plutôt dans un petit peu plus loin. Mais faire des projets sans inclure Dieu, c'est de l'orgueil. C'est pas marcher humblement avec ton Dieu. Car qu'est-ce que votre vie? On est qui, nous, pour dire qu'on est capable de décider ça, ça, ça? C'est pas nous qui décident. Surtout, en plus, on dit qu'on lui a donné notre vie, mais on a donné quoi si on continue à faire tout selon ce qu'on pense, selon ce qu'on aime, selon ce qu'on, puis sans demander de l'aide en rien. Il dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, puis ensuite disparaît. On est juste un petit bout de passage, on est juste une petite brume dans la vie de comparé à l'éternité. Là. Notre petit 80-90 ans qu'on vit, là, c'est juste un pet. Comparé à l'éternité, c'est un gaz. C'est dit plus en québécois. Mais c'est rien. On n'est rien. On est là pour se vante qu'on est au contrôle de tout. C'est de l'orgueil. Là, il explique qu'est-ce qu'on devra faire, Jacques. Il dit, vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. On n'est même pas sûr d'être vivant demain. C'est pas un amen, je veux pas être vivant demain. C'est amen que c'est, on n'est pas sûr. On n'est même pas sûr si on va être là demain. Puis les chrétiens doivent penser comme ça, que si Dieu m'accorde d'être encore vivant, si Dieu le veut, je ferai cela. Là, tu te fies plus sur toi, tu te fies sur son pouvoir, sa volonté, puis ce qu'il lui peut faire. Lui peut t'organiser des choses dans ta vie. Voyez-vous? Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si tu dis, je vais aller passer un an là-bas, puis je vais gagner de l'argent, puis on va s'enrichir, ça, c'est de l'orgueil total, parce qu'on n'a même pas mis un mot en disant, si Dieu veut que ça se passe. Mais maintenant, Jacques est en train de rajouter, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ouch! C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Ça veut dire que les chrétiens doivent absolument, dans n'importe quel projet, de remettre ça dans les mains du Seigneur, puis de dire, si Dieu le veut, demain, on part pour le Nouveau-Brunswick, si Dieu le veut, puis on va se rendre, si Dieu le veut, puis il va nous bénir, si Dieu le veut, puis j'ai prié pour y remettre ça entre ses mains, guide-nous, protège-nous, bon. Tu remets ça en ses mains, tu mets ta confiance en Dieu. Sinon, je mets ma confiance dans je suis capable. J'ai un bon char, il va se rendre. Même les charneux, ils peuvent être agents. Vous voyez plus souvent des chars récents sur le bord du chemin que des vieilles minounes. Aujourd'hui, avec l'électronique, c'est encore moins fiable que qu'est-ce que c'était, là, les vieux modèles. Fait que si Dieu le veut, on va se rendre là. On va être encore vivant, on va se rendre là, puis on va pouvoir voir ce qu'il a préparé pour nous en y faisant confiance. Puis s'il arrivera de quoi? Mais tu sais que Dieu est là, parce que c'est Dieu qui permet qu'il arrive des choses, mais c'est tout pour sa gloire au bout de la ligne. Amen. Faire nos affaires seules, sans s'en remettre à Dieu, démontre qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est de l'orgueil. La Bible nous dit, dans le psaume 37:5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Ça veut dire qu'il faut apprendre à mettre notre confiance. Puis comme je vous disais, c'est pas à cause qu'on a accepté le Seigneur qu'on marche automatiquement avec confiance. On peut encore marcher dans nos idées, même après qu'on... On peut vivre plein d'affaires avec le Seigneur puis être encore dans la chair. La parole dit aussi de pas faire confiance en nos capacités, mais de mettre notre confiance en Dieu. Dans Proverbe 3:5, ça dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Tu peux avoir suivi toutes les formations, tous les séminaires, tous les cours pour dire que t'as eu tous les diplômes accrochés sur le mur, puis il dit encore « Confie-toi pas dans ta sagesse. » Mets pas ta confiance dans tes papiers, dans tes documents, dans tous tes livres que tu as lus. Mets pas ta confiance dans « Oui, je suis un gars avec un QI plus élevé que tous les autres. » Ça compte pas. Pour Dieu, c'est zéro si tu n'as pas mis dans ta phrase que c'est Dieu qui va me guider, qui va me conduire. C'est lui, en lui, je mets ma confiance. Toute notre vie, elle peut être encore charnelle, même si on est un top aux yeux des hommes. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies. Ça veut dire, faut que tu sois capable de voir, Dieu est en train de me parler. Là. Oh, Dieu est en train de faire telle affaire dans ma vie. Oh, Dieu, il est en train de préparer des choses, puis tu as confiance, t'arrives une bénédiction. Oh, merci Seigneur pour la bénédiction. Tu reconnais Dieu dans tout. Puis même quand ça va mal, merci Seigneur pour l'épreuve, tu es en train de me former pour que je sois encore plus fort dans le Seigneur. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ça veut dire, si tu es capable de voir la main de Dieu dans tout ce que tu es en train de vivre, là, tu y fais confiance, tu y mets ses mains, puis là, tu vois des choses arriver, merci Seigneur, qu'est-ce qui était en train d'arriver. Si tu fais ça, c'est de marcher avec humilité, il dit, il va aplanir tes sentiers. Tes sentiers, là, il va te rendre la vie plus facile. Intérieurement, tu vas sentir sa paix, ça, tu vas sentir sa joie. Malgré toutes les choses que tu peux vivre, tu vas être béni par Dieu parce qu'il va te rendre la vie meilleure intérieurement. Il dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça veut dire, pense pas que tu es là puis que tu es capable. Crains l'Éternel. Fais confiance à Dieu. Masse entre tes mains. Puis là, tu vas voir la main de Dieu encore plus. Tu veux la voir, la main de Dieu. Tu veux la voir. Tu y masses entre tes mains. Puis tu vas en voir des choses que Dieu fait. Le péché de l'homme orgueilleux est qu'il se confie dans ses capacités sans vouloir se soumettre à Dieu. Parce que quand tu t'en remets à Dieu, ça veut dire que là, ça change. Là. C'est parce que le gars qui dit, je vais aller dans telle ville, on va trafiquer pour on va faire de l'argent, là, t'es en train de te vanter. T'es en train de t'élever. C'est l'orgueil. Tu penses que tu es en contrôle de ta vie. Puis celui qui veut pas s'en remettre à Dieu, c'est comme, il veut pas se soumettre, il veut pas faire... Lui, il aura comme projet d'aller là pour faire de l'argent parce que ça lui donne un avantage dans son portefeuille. Mais si Dieu a un plan contraire pour sa vie, son plan va aboutir. Il se rendra pas, ça marchera pas, puis il va avoir plein d'affaires qui vont aller mal dans sa vie, puis il ne ressentira pas la paix de Dieu qui est en train d'y aplanir son sentier. Puis ça démontre son orgueil, ça démontre que Dieu, il ne s'en occupe pas pendant un bout. Dieu nous laisse aller dans nos choix, dans nos choses, puis dans nos décisions, mais il veut qu'on apprenne à marcher humblement avec lui. Il veut tasser les gens qui sont comme ça, c'est qui pensent rien qu'à eux, puis qui c'est rien que faire leurs affaires. Ils veulent tasser Dieu de leurs paramètres. Ils veulent pas avoir à penser que Dieu pourrait imposer la sienne, sa volonté, puis changer tes propres projets. Tu veux tasser Dieu, en réalité, pour prendre sa place. Parce que on était créés pour que Dieu règne sur nos cœurs. Tous les gens sur cette planète ont été créés dans le but à ce que Dieu gère leur vie. Que tout le monde marche en dépendance, en s'accrochant à Dieu. Toute la planète a été créée dans ce but-là. Puis si ça va mal dans le monde, c'est parce que le monde ne cherche pas à mettre leur confiance en Dieu. Tout le monde veut marcher dans leur volonté, sans Dieu, dans leur orgueil, ils s'égarent, puis la planète est en ruine aujourd'hui. On veut tasser Dieu, prendre sa place, on veut faire notre propre volonté. Ça revient à la même exemple de Satan, le diable. Ce qui est décrit dans Ézéchiel 28, c'est le diable. Comment est-ce que le diable pensait, lui, quand il s'est rebellé contre Dieu pour faire sa volonté? Vous savez que le diable, il s'est rebellé. Écoutez bien celle-là. Le diable s'est rebellé contre Dieu parce que le diable voulait faire sa propre volonté. Il voulait imposer, il voulait avoir la gloire de ce monde pour lui. Il voulait tasser Dieu pour que tous les gens adorent le diable. Pour que lui soit élevé. Alors, regardez bien cette prophétie-là dans Ézéchiel 28, une phrase que le diable dit. Là, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Fait que lui, le diable, il a commencé à se proclamer Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Il dit, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Puis là, Dieu il dit, toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Juste ça, là, c'est une phrase pour nous ramener dans l'humilité. Là, je me suis trompé dans ce verset-là. C'est l'antéchrist qui va penser comme ça. C'est pas le diable. Le diable, c'est dans Ézéchiel 14. Celle-là, ça parle d'un humain qui s'élève, qui voulait être le top, puis qui se pense Dieu, en contrôle de tout. C'est l'homme du péché. Mais l'orgueil qui mène à vouloir prendre la place de Dieu, prendre sa place, puis se proclamer Dieu, puis c'est ça que les humains cherchent à faire aujourd'hui. Il y a des livres décrits en parlant comment faire pour devenir Dieu, comment faire pour atteindre ton épanouissement, puis ton élévation, puis etc. Plein de choses comme ça, puis il y en a même qui vont dire que c'est ça que Jésus a fait pour devenir Dieu. La Bible, elle nous parle pas de cela du tout. On est des hommes, on est des humains, on est des créatures créées par Dieu dans le but de marcher humblement avec le vrai Dieu, et non se proclamer Dieu, se penser Dieu, puis de vouloir gérer notre vie comme si on serait Dieu. Faut apprendre à soumettre à Dieu, puis demander à Dieu de venir faire les choses dans nos vies. N'oublions pas que tout ce que nous avons, puis tout ce que nous vivons, vient de Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est Dieu qui l'a décidé. Si vous êtes qui vous êtes, c'est Dieu qui l'a décidé. Qui a choisi que j'aie la grosseur de ce nez-là, puis ces oreilles-là, puis cette bouche-là, puis le cerveau que j'ai, puis les jambes, puis le corps que j'ai? C'est qui a décidé? Je peux le modifier un peu si je fais des poids, ils vont grossir, mais à part de ça, c'est pas moi, j'ai rien décidé. Je suis même pas décidé dans quelle famille que je viens au monde. C'est Dieu qui a décidé dans quelle famille, dans quel pays que je viendrai au monde. On n'a rien, même nos propres enfants qu'on a eu, on veut des enfants, on n'a rien décidé. Des fois, on veut un gars, on a une fille. Des fois, on veut une fille, on a un gars. On décide même pas sur les choix de carrière de nos enfants. Chacun décide. Tout le monde décide individuellement face à ce que Dieu les a créés avec les dons, les capacités qu'ils ont reçues. Tout ce qu'on a, on est ce que Dieu a voulu. Mais le reste, c'est on est responsable de nos décisions. Est-ce qu'on veut marcher dans notre gloire ou marcher en glorifiant Dieu, en élevant Dieu, en mettant notre confiance en Dieu, puis quand Dieu fait quelque chose, on rend la gloire à Dieu. C'est là qu'il y a toute la différence. Dans 1 Corinthiens 4:7, ça dit, « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Puis si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'aurais pas reçu? » Tout ce qu'on a, si on a une capacité, puis on a une bonne job, c'est Dieu qui a fait ça. Remercions Dieu avec cela, puis demandons-y de nous aider dans ce qu'on a à faire. Il n'y a pas juste ça aussi, même dans notre vie chrétienne, toutes nos victoires et nos réussites proviennent du fait que Dieu marche avec nous, en nous, puis on s'appuie sur lui. C'est là qu'on va avoir des victoires. Ça vient en cause de Dieu. C'est pas en cause qu'on est bon. Dans 1 Jean 4:4, l'apôtre Jean dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, en parlant des faux prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » On a de la victoire grâce à Dieu qui est en nous. Fait qu'on n'a pas à se glorifier. Si on est sauvé, c'est à cause que Dieu nous a pardonné, puis parce que Dieu il nous a fait grâce, il nous a donné de son esprit, il est entré en nous, puis c'est cet esprit-là qui va nous ressusciter à la fin. Fait que tout vient de Dieu. C'est pour ça qu'il faut apprendre à mettre notre confiance en Dieu, puis à toujours dire, Seigneur, c'est grâce à toi que j'ai ça, puis merci Seigneur, puis Seigneur, je remets ça entre tes mains, là, je veux faire tel et tel projet, je te fais confiance. Puis c'est ça de marcher humblement avec Dieu. Il y a un seul endroit qu'il faut pas se mettre à genoux. Puis la Bible, elle nous le dit. Un seul endroit qu'il ne faut pas se mettre à genoux, mais plutôt il faut se redresser puis être ferme sans orgueil, c'est pour résister devant le diable. C'est pour résister devant le diable. Là, mets-toi pas à genoux. Reste debout, reste ferme, puis résiste. Seul devant tous ces pièges, ces tentations, ces convoitises, ces idées qui peuvent te mettre dans la tête. Ça, là, sois pas gêné de te redresser puis de dire fermement, arrière de moi, Satan. Dans 1 Pierre 5,8, ça nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est de résister au diable avec une foi ferme. Mais quand c'est le temps de parler de Dieu, c'est de soumettre à lui, fléchir le genou devant lui, puis lui demander qu'il vienne faire les choses en nous. Puis ça, là, tout le monde sur la planète doit comprendre cela et de vivre cela. Si on le fait pas, frères et sœurs, si on le fait pas, qu'on connaisse Jésus, qu'on le connaisse pas, si on le fait pas, on va obéir au diable, puis on va suivre son chemin ou nos chemins, puis on glorifie nullement Dieu, fait qu'on n'a pas de fruit qui vient de Dieu. Dieu nous appelle à l'humilité devant lui et devant les hommes. C'est lui qui élèvera et abaissera selon sa volonté. Au bout de la ligne, là, afin de, quand ça va être le temps de remettre les récompenses à tout le monde, là, puis il y en a qui vont rentrer, ils vont être sauvés, vont entrer, puis ils vont être très récompensés. Il y en a d'autres qui vont rentrer très peu de récompenses. Puis il y en a d'autres qui ne rentreront pas pantoute. Puis ça va être des jugements plus sévères qui vont vivre, puis être rejetés pour. C'est tout Dieu qui va décider. Parce que t'as accepté Jésus et t'as dit « Oui, je veux te suivre, là, X temps. » C'est pas rien que là-dessus que Dieu regarde. Il regarde aussi toute ta vie. T'as-tu marché avec lui ou tu l'as mis de côté? C'est ça qu'il regarde. T'es rendu où quand t'arrives à la fin de ta vie? On l'a dit une couple de fois, ça. Ta fin de vie est même plus importante que tout ton cheminement. Quand est-ce qu'elle va finir notre vie? Bientôt, ça je vous le dis. Ça. Jésus t'arrête de revenir, puis en plus, même nous, on peut partir. Demain, on ne sait même pas si on va être encore vivant. Mais aujourd'hui, je dois être quelqu'un qui marche humblement avec mon Dieu. Puis qui apprend à mettre sa confiance en Dieu, s'attendre sur Dieu, puis que Dieu fasse les choses, qu'on attend sa bénédiction. Le passage dans 1 Pierre 5, au verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Y en a-tu qui sont prêts à le faire? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a un temps où ce que Dieu va élever ses enfants. Ça peut être dans ce monde, ça peut être après. Déjà, le participer à l'enlèvement, ça va être toute une fierté d'être dans la gang. De se ramasser ces nuages-là avec le Seigneur. Alléluia! Merci Seigneur! On est rendu fini les combats, les luttes, les travaux, les souffrances, les peines, les pleurs. Mais avant d'être là, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève. Des fois, on cherche à s'élever et à se vanter. Pas besoin. Attendons que Dieu le fasse. Elle a dit « Amen ». On attend que Dieu le fasse. Alléluia. Là, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Ça veut dire « Faites confiance à Dieu ». Déchargez-vous tous vos soucis. Tu t'en vas en voyage, t'es un vieux troc, tu te dis, je suis pas sûr de me rendre, je suis aussi bien de me décharger sur lui puis de faire confiance. Même si t'es un bon char, comme je l'ai dit, c'est pas sûr. Faisons confiance à Dieu. Humilions-nous devant sa main, il va nous élever un jour. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
Amen.
Il prend soin même des choses qu'on ne demande pas. Mais plus que tu vas y faire confiance, plus tu vas voir sa main, plus tu vas pouvoir rendre gloire à Dieu pour toutes les choses qu'il a faites dans ta vie. Amen.